Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Radio Présence. Merci d'être fidèle à Métropolez-vous chaque semaine. Il m'est arrivé parfois dans cette émission d'évoquer la commande publique, l'importance qu'elle avait pour l'économie française dans certains secteurs d'activité, notamment en temps de crise. Dans une métropole comme Toulouse, elle constitue un soutien essentiel pour bon nombre d'entreprises locales. À ce titre, la baisse des dotations de l'État aux collectivités est une source d'inquiétude pour les années à venir. Nous en reparlerons peut-être au cours de cette émission. Cela étant, il y a une question que vous vous posez peut-être. Comment fonctionne la commande publique, la gestion des marchés publics à la mairie de Toulouse et à Toulouse Métropole? Sur quelles règles et principes s'appuie-t-elle? Il y a un document qui explique tout ça, qui sert de référence dans ce domaine. C'est le Small Business Act et c'est le 10e anniversaire du Small Business Act ces jours-ci. Nous allons vous le présenter avec l'invité de ce numéro. Et l'invité de ce numéro, c'est Pierre Trottmann, adjoint maire de Toulouse, délégué entre autres à la commande publique et au marché public, membre du bureau de Toulouse Métropole. Bonjour monsieur, ravi de vous accueillir dans cette émission pour la première fois, parce que c'est une première en ce qui vous concerne.
Oui, bonjour monsieur Dupri, je remercie de m'inviter.
Il faut qu'on précise d'abord ce qu'est le Small Business Act, la charte des marchés publics de la mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole. Donc ce document a été créé il y a 10 ans. Quelles sont sa vocation, sa philosophie et ses objectifs?
Tout d'abord son nom, le Small Business Act, c'est un nom américain, donc c'est un peu bizarre. Je préfère moi le nom de charte des marchés publics, mais c'est pour faire référence à la manière de travailler des Américains. Dans Small Business Act, il y a Small Business, c'est-à-dire les PME, donc ils ont mis d'ailleurs... avec des lois qui ont été modifiées à de nombreuses reprises, qui datent de la fin de la guerre de Corée, ils ont mis en place des modalités pour favoriser les PME et les entreprises locales. Et donc, dans le programme électoral de Jean-Luc Mudingue de 2014, il avait dit qu'il allait effectivement mettre en place une charte des marchés publics pour favoriser les entreprises locales. Naturellement, nous sommes en Europe, dans le respect total du code des marchés publics, puisque nous ne pouvons pas avoir de critères géographiques, mais nous pouvons néanmoins mettre en place toute une série de mesures pour favoriser les entreprises locales et pour favoriser les petites et moyennes entreprises. Donc ce programme a été bâti dès 2014, dès l'élection de Jean-Luc Mudingue. Il a été bâti par Toulouse Métropole, la mairie de Toulouse et les organismes proches d'elle, qui dépendaient d'elle, c'est-à-dire Tisséo, Tisséo Collectivité, Tisséo Voyageurs et Tisséo Engineering, qui est en train de construire actuellement la troisième ligne de métro, avec Toulouse Métropole Habitat, qui est l'organisme d'habitat social contrôlé par Toulouse Métropole, avec Europolia et Opidea, qui sont les organismes de Toulouse Métropole qui sont chargés de l'aménagement de la ville et de la métropole, et avec le CCAS, et ultérieurement se sont rajoutés à cela toute une série d'organismes volontaires, comme la mairie de Saint-Orens, la mairie de Blagnac, la mairie de Fenouillet, l'agence d'attractivité, le CHU est venu volontairement également pour s'associer à cette démarche. Alors cette démarche, elle ne s'est pas faite tout seule dans un coin, on n'est pas resté dans notre coin, on a travaillé ensemble avec toute une série d'organismes, avec la Chambre des Commerces, la Chambre des Métiers, la CAPEB, les fédérations de travaux publics, la Fédération régionale du BTP, etc. Et on a bâti cette fameuse charte des marchés publics.
Donc ce document a été élaboré en concertation avec tous les organismes, les structures que vous venez d'évoquer. Est-ce qu'il a été revu depuis 2014-2015, le moment donc où il a été mis en œuvre? Est-ce qu'il a pu être modifié?
Il n'a pas été revu depuis lors. Il y a un autre pan de loi qui a été voté qui s'appelle le SPASER, le schéma des achats écologiquement et socialement responsables. Mais le document lui-même n'a pas été modifié. Il a été amélioré dans la manière de faire. Et comme nous arrivons aujourd'hui aux 10 ans, Jean-Luc Mudingue a voulu donner une certaine solennité pour fêter ces 10 ans, parce que, comme vous le verrez tout à l'heure, les résultats ont quand même été appréciables et appréciés par ceux qui en profitent. Mais, comme je l'ai dit, dans le strict respect du Code des marchés publics.
C'est-à-dire qu'à l'occasion de ces 10 ans, il va y avoir un bilan qui va être fait après 10 années de mise en œuvre du Small Business Act sur le territoire de Toulouse Métropole.
Il va être fait au cours d'une réunion qui sera présidée par Jean-Luc Moudenc, où tous ses partenaires vont être invités pour faire ce bilan.
Eh bien, merci pour ces premières explications et cette présentation du Small Business Act, de ses objectifs et de la manière dont il a été conçu. Après notre rendez-vous habituel avec l'actualité métropolitaine, nous allons rentrer dans le détail de ce document et donc nous vous intéresser au bilan qui a pu en être fait. Dans l'immédiat, on retrouve Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire « Métropole et vous, l'actu ».
Commençons avec ce séisme concernant l'autoroute A69. Le tribunal administratif annule l'autorisation environnementale. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'autorisation environnementale accordée en mars 2023 au concessionnaire Atosca concernant l'autoroute qui devait relier Toulouse à Castres. Une décision qui fait suite à une bataille juridique engagée par plusieurs associations environnementales organisées autour du collectif La Voie est libre. Depuis de nombreux mois, les opposants dénonçaient l'impact écologique du projet, notamment la destruction d'espèces protégées. Des arguments repris par la rapporteure publique qui avait préconisé l'annulation totale de l'autorisation lors des audiences de novembre 2024 et février 2025 en vertu de l'absence d'intérêt public majeur. Malgré un avancement significatif des travaux, le concessionnaire Atosca pourrait être contraint de déconstruire les infrastructures déjà réalisé et de renaturaliser les zones impactées. L'État a fait appel et a demandé un sursis à l'exécution de cette décision. La dépollution du site AZF va bientôt toucher à sa fin. À l'été 2025, il ne restera quasiment plus de traces de l'explosion du 21 septembre 2001 à Toulouse. 23 ans après la catastrophe de l'usine AZF, camions et tractopelles vont et viennent sur les deux derniers hectares du site, restés sous scellé judiciaire jusqu'en 2022. Depuis le mois d'août dernier, toutes les structures de métal et d'acier, les murs, les fondations des bâtiments et dalles de béton ont été extraites. Des amas de terre et de déchets ont été triés. Le chantier de remise en état est entré dans ses dernières phases avant d'accueillir de nouveaux projets. Ultime trace du sinistre, le cratère formé par l'explosion. C'est désormais un plan d'eau, une zone humide qui restera en l'état. Le 21 septembre 2001, l'explosion avait coûté la vie à 31 personnes et fait des milliers de blessés. Signature d'une convention entre Toulouse Métropole et le département des Hautes-Pyrénées. Depuis plusieurs années, Toulouse Métropole s'est engagée dans une dynamique de coopération interterritoriale avec Montpellier Méditerranée Métropole, avec le pays des Portes de Gascogne, la communauté de communes Cœur et Coteau Comminges, le pays de l'Armagnac ou encore les intercommunalités du Nord Toulousain et maintenant avec l'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Un accord orienté autour de plusieurs axes à mettre en œuvre parmi eux, le soutien à la promotion des filières et des labels aux Pyrénéens auprès des structures de restauration collective métropolitaine, le développement touristique, des loisirs ou encore de l'éducation, des échanges de bonnes pratiques ou encore des partenariats culturels. Les musées, monuments et sites culturels et scientifiques de Toulouse ont accueilli plus de 3,4 millions de visiteurs en 2024, un chiffre en légère hausse par rapport à l'année 2023. La basilique Saint-Sernin reste toujours le lieu culturel le plus visité. Plus de 898 000 visiteurs ont pu découvrir sa nouvelle rosace réalisée par l'artiste Jean-Michel Autoniel. Le musée d'archéologie Saint-Raymond a quant à lui noté une fréquentation record de plus de 43%. Sa grande exposition Qatar-Toulouse dans la croisade a accueilli à elle seule plus de 90 000 personnes. Les musées scientifiques, le Muséum, le Quai des Savoirs, Aéroscopia, la Cité de l'Espace et l'Envol des Pionniers ont cette année encore enregistré une audience grandissante de plus de 1,2 million de visiteurs, soit 7% de plus qu'en 2023.
C'était le tour d'horizon hebdomadaire de l'actualité métropolitaine vu par Corinne Saint-Félix. Merci beaucoup Corinne. Alors Pierre Trottmann, je vais vous demander une réaction à la première information de ce flash, parce qu'évidemment c'est la surprise de la fin de la semaine dernière, bonne pour certains, mauvaise pour d'autres, l'annulation de l'autorisation environnementale pour le chantier de l'autoroute A69 par le tribunal administratif. Comment vous y réagissez personnellement ?
C'est un avis personnel, parce qu'en principe, on ne commande pas des décisions de justice, mais celle-là est tellement, tellement surprenante que, puisque vous me posez la question, je vais y répondre. Ça fait 30 ans qu'on attend ce projet, que les gens attendent ce projet. Ça fait 6 ans qu'on est dans des procédures. Toutes les procédures se sont terminées donc en faveur du projet. Et là, alors qu'on est à quelques mois de la fin des travaux, il y a une décision de justice qui impose d'arrêter ce chantier, sachant que on ne pourra jamais revenir en arrière, même si on déconstruit des gens qui disent que ça coûte 1 milliard d'euros au total, avec ce que l'État va devoir payer au concessionnaire qui n'a pas pu mener son projet à terme, avec tous les travaux. Donc tout ceci est pour moi, je suis presque atterré. Et je dirais qu'on a oublié deux espèces là-dedans, deux espèces qui sont importantes. La première, c'est l'Homo castré, et la deuxième, c'est l'Homo mazamétus, qui eux, j'ai fait un petit calcul quand j'ai vu cette décision de justice. Quelqu'un qui vient tous les jours, soit de Toulouse pour travailler là-bas, ou de Castres et de Mazamet pour venir, il gagne 20 minutes par trajet. 20 minutes par trajet, vous multipliez ça par 2, ça fait 40 minutes. Vous multipliez ça par 220 jours, ça fait 8000 minutes. Et quand vous faites le calcul, ça fait 4 semaines de travail. Donc 4 semaines de travail, ça fait 8000 heures si vous faites le calcul, ça fait 4 semaines de travail, et donc ces deux espèces-là ont été oubliées dans cette décision de justice. Et puis après, il y a tout le temps perdu, quand le laboratoire Fabre dit que maintenant, à partir de maintenant, il va tenir compte effectivement de ces contraintes de temps perdu. Et j'étais là, moi, à l'époque, on a fait l'A380. L'A380, on était en concurrence avec Hambourg. Et on a dû se battre pour faire ça. Il y a même une loi qui a été faite, la voie pour le grand gabarit, donc des routes pour pouvoir mener jusque... Et puis localement, on s'est battu pour faire ça. Mais je peux dire, et d'ailleurs Guillaume Faury l'a dit lui-même en disant que tout devient maintenant beaucoup trop compliqué en France. Et avec l'incertitude qu'on a, je pense que si ce projet se présentait encore maintenant en face de nous, il n'y aurait même plus de décision à prendre. La décision, c'est de dire qu'on n'est plus compétitif. On ne peut plus se battre. Donc, je suis déçu par cette opération et par l'argent qui est perdu. Voilà.
Bon, on verra les suites, évidemment, de cette décision. Aujourd'hui, c'est un peu la sidération, je pense, pour ceux qui comptaient sur l'aboutissement de ce chantier. On aura l'occasion d'y revenir aussi dans une émission que j'anime le jeudi. Ce jeudi soir, la mêlée de l'info. Merci d'avoir bien voulu commenter l'actualité métropolitaine et d'y avoir apporté vos compléments. Nous reprenons tout de suite nos échanges autour du Small Business Act, la charte des marchés publics de Toulouse Métropole.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de ce numéro de Métropole et vous avec Pierre Trottmann, adjoint maire de Toulouse, délégué à la commande publique et au marché public, membre du bureau de Toulouse Métropole. Les objectifs du Small Business Act, quels étaient-ils et quel bilan peut-on faire aujourd'hui, 10 ans après la mise en œuvre de ce document sur le territoire de Toulouse Métropole?
L'objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif c'est de favoriser les entreprises locales tout en restant dans le cadre strict de la loi, dans l'égalité de traitement, dans la transparence des procédures, etc. Mais comment on fait? Il y a toute une série de manières de favoriser. Et la première, c'est de faire l'allotissement, c'est-à-dire quand vous avez un projet, de le découper en morceaux, de manière à permettre aux petites entreprises de pouvoir concourir. Deuxième, c'est d'autoriser les groupements d'entreprises, c'est-à-dire que les entreprises petites puissent se regrouper pour pouvoir participer, mais sans imposer le groupement solidaire, où toutes les entreprises sont solidaires. Si l'opération capote, toutes les entreprises doivent payer, parce que les petites ne peuvent pas se permettre ça. Et ensuite, on a aidé à l'époque un certain nombre d'entreprises, parce que la commande publique, c'est à la fois simple et compliqué. Si vous ne savez pas faire, vous ne pouvez pas gagner. Donc, il y a notamment un élément important qui s'appelle le mémoire technique, où tout doit être bien décrit, etc. Donc, on a formé un certain nombre d'entreprises. Toutes les entreprises qu'ils souhaitent sont les bienvenues chez nous. Ils viennent à la direction de la commande publique. On leur explique, et au début de cette opération, donc il y a 10 ans, on faisait des séances de formation avec les entreprises. Maintenant, on n'en fait plus parce que les entreprises sont au courant. Mais dès qu'il y a une entreprise qui a des problèmes, elle peut toujours venir et nous appeler Et puis on donne des informations privilégiées à nos entreprises. Par exemple, une fois par an, on réunit les entreprises et on leur dit quelles sont les opérations qui vont être lancées. Par exemple, on va voir jeudi prochain une réunion présidée par le président Jean-Luc Moudin de Toulouse Métropole, où tous les maîtres d'ouvrage que j'ai cités tout à l'heure auront des stands et les entreprises pourront venir demander des renseignements sur les différentes opérations qui sont menées par eux. Donc elles seront prêtes, elles peuvent se préparer au moment où les projets seront lancés. Alors tout ça c'est public, tout ça sera sur le site de Toulouse Métropole et sur le site les différents sites. Il y en a même créé un avec l'État, un site unique pour tous les marchés publics. Mais nous, on a fait des réunions avant, on a donné des documents avant, on a donc préparé tout ça de manière à mettre nos entreprises dans des situations privilégiées. Et après, pour cette charte de marché public, on a mis en œuvre un certain nombre de choses supplémentaires. On a réduit les délais de paiement. Parfois, les entreprises se plaignaient, on met beaucoup de temps à se faire payer. Ce n'est plus le cas.
Oui, ce qui pouvait leur poser des problèmes de trésorerie, évidemment.
Ça pouvait leur poser des problèmes. Ce n'est plus le cas. Avant, en 2014, quand on a commencé, les délais moyens de paiement étaient de 44 jours, ce qui est relativement long, mais pas non plus exceptionnel. Mais on les a descendus à 22 jours, grâce également au service de l'État, parce que les paiements se font également par l'intermédiaire des services de l'État, que je remercie ici. Et on a donné des avances de trésorerie systématiques, c'est 30%, plafonné pour systématique à 30% sans garantie financière, c'est-à-dire on ne demande pas de garantie financière, ce qui compliquerait les choses, et c'est 30% pour des marchés jusqu'à 300 000 euros, donc ça fait 90 000 euros, et pour les marchés du BTP, c'est jusqu'à 1 million d'euros, c'est-à-dire l'avance sans intérêt peut aller jusqu'à 300 000 euros. C'est important pour les entreprises. Prenez une entreprise qui fait de menuiserie extérieure, etc. Avant, elle a un marché, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Il faut qu'elle s'achète d'abord son matériel, ses volets, ses vitres, etc. Et avec l'avance, elle peut faire ceci sans problème particulier, d'autant plus que c'est sans garantie financière.
Ça fait partie des engagements de Toulouse Métropole, de la mairie de Toulouse, dans cette charte. Je crois qu'il y a 48 engagements en tout. Bon, on ne va pas tous, évidemment, les détailler, mais quels sont les principaux en dehors de ceux que vous venez d'évoquer?
Mais les principaux, on met des clauses d'insertion, c'est-à-dire qu'on pense à ceux qui ont des difficultés sur le marché du travail. Donc, quand il y a un certain volume de travaux qui est donné, il y a des clauses d'insertion, les entreprises doivent consacrer. C'est pas optionnel. Ils doivent consacrer un certain pourcentage des heures de travail et ça, c'est quelque chose qui se monte avec Toulouse Métropole Emploi, qui est une association dont Toulouse Métropole fait partie, les services de l'État font partie, l'université s'en fait partie, qui se fait l'intermédiaire entre les entreprises qui frappent à la porte de Toulouse Métropole Emploi, qui leur fournit donc des gens qui viennent des différentes missions locales et qui peuvent travailler comme ça dans les quartiers de la politique de la ville. Quand vous regardez nos quartiers de politique de la ville, vous y allez vous promener à Ampalo, vous allez vous promener à Bagatelle, à Bellefontaine, à Rennerie. Les quartiers sont nickel, les bâtiments sont bien, les rues sont propres, etc. Le problème essentiel qu'on a là-dedans, c'est le problème d'emploi. Donc, ce Toulouse Métropole Emploi et cette charte d'insertion, ces clauses d'insertion, visent à permettre à ce type de personnes de trouver des emplois. Et puis, les réussites sont relativement bonnes quand on regarde quel est le pourcentage de réussite. Toulouse Métropole Emploi fait du très bon travail. Et actuellement, on a 1 million d'heures de clauses d'insertion. Si vous regardez à quoi ça correspond, vous divisez par 1500, 1700 heures par an, vous avez 600. C'est l'équivalent d'une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, de 600 personnes. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est contenu dans cette clause de marché public. Ensuite, on a des marchés réservés pour les organismes d'aide par le travail. C'est des gens qui ont des handicaps, qui peuvent travailler, auxquels on souhaite donner du travail. On a multiplié par deux le volume des crédits. On était en 2018, on était à 1,4 million d'euros, on est passé à 2,9 millions d'euros. Ensuite, On valorise la démarche des entreprises en prenant compte leurs responsabilités sociétales sans en faire des critères d'attribution. Hein. Dans les marchés réservés, il y a un critère d'attribution. Ça ne peut aller qu'à ces entreprises. Et on valorise notamment l'économie sociale et solidaire, où on a également assez...
Qui est très développée sur le territoire de toute la métropole. Hein.
On a assez fortement augmenté. On a, par exemple, entre 2021 et 2024, on est augmenté de 20%. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a toutes les associations comme Léo Lagrange qui font tous les clés, etc. On a quelques scopes également, et on a les régies de quartier. Je reviens à l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. Les régies de quartier, c'est des régies qui sont montées dans les quartiers d'habitat social de la politique de la ville et qui font travailler les gens du quartier dans la propreté, l'animation de leur quartier. Ceci également, nous considérons cela comme très important.
Alors, je parlais des engagements de Toulouse Métropole, de la mairie de Toulouse, dans la charte des marchés publics, mais est-ce qu'il y a aussi des engagements pour les entreprises qui adhèrent?
Les entreprises qui adhèrent, c'est nous qui fixons les critères. Quand vous avez un marché public, comment ça se passe pour un grand marché public? Premièrement, on édicte, nous, des critères en disant on veut construire tel truc, on veut faire ceci, on veut acheter telle chose, mais voici ce que nous mettons comme critères.
Dans le cahier des charges.
Dans le cahier des charges. L'un des critères, c'est toujours le prix. Et la loi dit qu'il faut pondérer ces critères. Donc, il faut que vous donniez une pondération. Par exemple, le prix, on le prend à 40% et on dit comment on calcule cette pondération. Et ensuite, vous avez beaucoup d'autres. Vous pouvez mettre d'autres critères. Donc, vous pouvez mettre les critères que je cite, de clause d'insertion. Et l'un des critères importants, c'est le mémoire technique. C'est là où l'entreprise décrit comment elle va faire ses opérations, va faire son chantier. Et donc, tout ceci est pondéré. L'entreprise remet ses offres chez un tiers, hein, c'est une plateforme tierce, c'est-à-dire que tout est confidentiel, et elles sont ouvertes, il y a une date limite de réponse, et elles sont ouvertes en même temps, après, par la plateforme tiers de confiance qui donne l'autorisation d'ouvrir, ce qui fait que ça assure une parfaite transparence et une parfaite égalité, mais c'est nous qui définissons ce que nous voulons dans ce chantier.
Information pratique pour ceux qui nous écoutent, des chefs d'entreprise, des gens qui songent à créer leur entreprise. Comment peuvent-ils se renseigner sur la commande publique, les marchés publics à Toulouse Métropole? Il y a un service qui est dédié et puis il y a le site sans doute de Toulouse Métropole.
Il y a le site de Toulouse Métropole et le site commun avec les services de l'État parce que nous travaillons bien avec les services de l'État. Donc ils peuvent se renseigner là. Alors, j'aimerais quand même donner les résultats de cette charte de marché public. Entre 2015, c'est-à-dire à 10 ans, on avait 690 millions de marchés publics. On est à 1 990 millions, c'est-à-dire on a pratiquement une multiplication par 3. Alors, là-dedans, il y a le métro qui arrive vers la
bien
fin,
sûr,
parce que la montée vers la fin. Et lorsqu'on regarde quelles sont la part des PME là-dedans, c'est à peu près 35%. Ce qui est assez important, hein, parce que dans les marchés publics, dans les achats qu'on fait, on achète de l'électricité, on achète du gaz. Tout ceci, ce n'est pas des PME qui le font. Et regardons comment on veut favoriser les entreprises locales. Au niveau de Toulouse, la ville de Toulouse et Toulouse Métropole, il y a 60% des crédits qui vont à des entreprises situées sur le territoire de la métropole et 77% des crédits qui vont à des entreprises situées en Occitanie.
Ça me semble tout de même des chiffres très importants. En tout cas, on voit bien la forte évolution en 10 ans, depuis que ça a été mis en place. Ça a énormément progressé. Bien, nous arrivons au terme de cette émission. C'est le moment de conclure. Merci beaucoup, Pierre Trottmann, d'avoir accepté d'y participer et de nous avoir présenté le Small Business Act, la charte des marchés publics de la mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole, dont nous célébrons ce jeudi 6 mars les 10 ans d'existence. Ce document est visible et consultable sur le site www.metropole.toulouse.fr à la rubrique Institutions et territoires, catégorie Emploi et vie économique. Marché public. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Très bon week-end, à bientôt.
Métropole et vous. Métropole et vous.
Métropole et vous, Une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.